Pour savoir tout, tout sur le sport, voici Olivier Beauregard.
Et c'est un plaisir de le retrouver cet après-midi. Olivier, bonjour.
Salut.
T'as terminé la chronique la semaine dernière en nous parlant des matchs à surveiller dans la NFL au courant du week-end. Puis j'ai comme l'impression que c'est dimanche soir, hein, si je me trompe pas, les amateurs en ont eu pour leur argent.
Ah, c'est incroyable. J'ai pas été capable de me coucher dans mon cas là avant la fin de ce match-là qui était interminable, mais qui, écoute, c'est pas compliqué là. Je pense que, puis j'en parlais avec des amis, j'en parlais avec des collègues. Je pense que ça a été l'un ou sinon le meilleur match peut-être de l'histoire de la NFL pour plein de raisons, parce qu'on avait deux sensations au niveau des corps arrière qui s'affrontaient en Pat Mahomes chez les Chiefs de Kansas City et Josh Allen chez les Bills de Buffalo. Puis honnêtement, ils ont donné tout un spectacle là. Écoute, des jeux in extremis dans des moments opportuns, dans des moments aussi très difficiles. Tu sais, je pense à Josh Allen qui a réussi à convertir des quatrièmes essais dans ce match-là. On a vu aussi des défensives jouer tout un match de football, tellement que elle a amené, dans le fond, ce match-là en prolongation. Et je pense que c'est ça un peu qui est décevant derrière ce match-là emblématique. C'est la conclusion du match qui s'est terminée, dans le fond, par une victoire des Chiefs, pas parce qu'ils ne méritaient pas, mais plus parce qu'on a remporté le tirage au sort. Puis ça a ramené le débat, puis ça a fait critiquer énormément les amateurs en disant ça n'a pas de sens, peu importe tes allégeances au niveau de l'équipe, ça n'a pas de sens qu'on conclue un match de football comme ça, parce que dans le fond, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec les règlements, là, c'est que si tu remportes le tirage au sort, tu décides de recevoir le ballon, si tu marques un toucher en premier, eh bien, tu remportes automatiquement la victoire sans même que l'autre équipe ait le temps d'avoir une possession. Et ça, c'est malheureux parce que, à regarder un peu comment Josh Allen se comportait dans ce match-là, ben, on aurait pu croire que les Bills auraient pu aller marquer un toucher aussi. Puis là, ça aurait continué, puis ça aurait été enlevant. Tu sais, on n'a même pas donné la chance, dans le fond, à Buffalo de répliquer. Et je pense que c'est ça qui est la grande déception. Puis ça relance le débat. Je pense que la NFL va devoir, à la fin des séries éliminatoires, peut-être se pencher sur la question. Puis c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est revenu souvent dans les années passées où ce qu'on questionnait un peu l'enjeu d'un match aussi important dans cette formule-là. La formule a été changée parce qu'avant, c'était même pire que ça, là. Avant, okay, si tu marquais un, j'ai juste le mot anglophone, un field goal, là, en tout cas, peu importe. Si tu réussissais un botté puis que t'étais capable de marquer des points, ben, tu remportais la rencontre. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben, si tu réussis un 3 points par le botté, l'autre équipe peut avoir sa chance. Mais si tu marques un toucher, par contre, tu l'emportes. Alors, tu sais, ça fait en sorte que, ben, c'est dommage parce que je pense qu'un match aussi grand, aussi électrisant que ça, ça va nous avoir, ça qui nous a tenus en haleine, là. Je pense que c'est ça qui a été un peu le coup de barre pour les amateurs, c'est de voir la conclusion d'un match comme ça.
Dans le fond, c'est ce que certains aimeraient, c'est un peu comme dans la NNH où en séries éliminatoires, les règles sont un peu différentes, puis on se termine pas sans tir de barrage. D'avoir une règle différente pour les matchs éliminatoires, c'est ce que certains aimeraient.
Ben, écoute, est-ce que c'est une règle générale ou une règle juste pour les séries? Ça serait à voir. Okay. Moi, je pense que ça devrait s'appliquer dans... Tu sais, il y en a plus des matchs nuls dans le monde du sport. Là, il existe encore certaines ligues qui l'ont, mais honnêtement, ça arrive premièrement très rarement. Puis quand ça l'arrive, mais c'est comme ça laisse sur une note un peu amère. Tu sais.
Oui.
Alors moi, j'aurais vraiment aimé ça revoir les Bills avec une possession de ballon. Ça veut pas dire qu'ils auraient marqué un toucher. Ça veut pas dire que le match se serait pas conclu de la même façon. Mais au moins, on aurait eu le sentiment que ça a été égal de part et d'autre, là, ben, c'est un peu ça, parce que Josh Allen a rien à se reprocher dans ce match-là, a joué un match phénoménal, fantastique. Moi, je pense qu'on aurait dû au moins avoir ça. Mais sinon, tout ça pour dire que ça a été un week-end de football incroyable. Tous les matchs se sont terminés à la fin du quatrième quart ou en prolongation. Ça a été tout un week-end. Ça va être dur à topper pour le reste des séries éliminatoires. Là, je veux pas décevoir les partisans qui nous écoutent, mais tu sais, les Bengals, beau parcours, San Francisco aussi, mais je crois que les Chiefs de Kansas City et les Rams vont s'affronter au Super Bowl à la conclusion du dernier week-end. Okay. Alors, tu sais, on verra, là, mais là, on dirait que le portrait est plus précis, si on veut, alors que le week-end dernier, tu sais, les Bucks et Tom Brady, on s'attendait peut-être à les voir passer, justement, ce match-là. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de le faire, puis chapeau à la défensive des Rams qui ont fait tout un travail, mais c'est ça, le football. C'est ça qui fait en sorte que c'est intéressant. C'est un match, c'est pas sept matchs comme au hockey, c'est pas un sept matchs comme au basketball non plus. C'est vraiment un match, puis c'est la meilleure équipe cette journée-là qui l'emporte puis qui poursuit son aventure. Alors, bref, bon week-end. Ça va être très, très dur à topper, mais on va regarder ça en fin de semaine. C'est des matchs intéressants. Puis je pense que les amateurs vont en avoir pour leur argent, ça c'est sûr à 100%.
Sinon, ben, chez les Steelers, c'est la retraite pour le corps arrière.
Ouais, Ben Roethlisberger, qui est comme, si tu veux, l'image des Steelers de Pittsburgh depuis 2004, son année de repêchage. Il a débuté sa carrière cette année-là, c'est un 11e choix au total. C'était pas nécessairement le corps arrière le plus... je peux pas dire imposant physiquement parce que c'est un gros bonhomme, mais plutôt, c'était pas le gars qui était le plus athlétique. Et pourtant, il a connu une carrière phénoménale, notamment en devenant l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de la NFL. Évidemment, il y a eu des démêlés à une certaine époque, ce qui a fait en sorte que ça a compromis un peu sa carrière à certains moments, puis ça a peut-être même ralenti ses statistiques. Mais quand tu regardes ce gars-là, puis quand tu regardes ce qu'il a réussi à faire, son pedigree, remporter 2 Super Bowls, est revenu l'année après justement ses démêlés avec la justice, amène son équipe au Super Bowl, s'incline, mais il a marqué une ville. 18 saisons dans la même équipe, dans la même ville, c'est un exploit en soi. Il y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans la NFL. Généralement, tu le vois quand c'est des corps arrière d'exception. Tu sais, je pense à Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay, qui lui, c'est de retour éventuellement. Ben, on sait même pas s'il va finir sa carrière avec eux. Par contre, quand tu regardes ce que Ben Roethlisberger a réussi à faire là-bas, ben, il a tout simplement créé un éthique de travail avec les Steelers de Pittsburgh. Il a créé, à 39 ans, je pense qu'on peut dire qu'il a réussi à changer l'image d'une formation comme ça. Évidemment, il n'a pas été le seul, mais ça a été lui pendant si longtemps. Alors, c'est vraiment une grosse page d'histoire de la NFL qui tourne aujourd'hui, puis je pense que c'est un gars qu'on va retrouver au temple de la renommée du football. Ça, c'est sûr à 100%. Alors, tu sais, on savait que l'annonce était imminente. Il l'avait comme laissé entrevoir à la fin de la saison régulière, juste avant les séries. Malheureusement, son parcours s'est terminé en première ronde des séries éliminatoires, mais, tu sais, outre ça, là, Ben Roethlisberger a une belle carrière. Je pense qu'on peut saluer ce qu'il a fait avec les Steelers de Pittsburgh. Et je pense que la NFL va devoir souligner son apport pour ce sport-là.
Et hier matin, il fallait se lever de bonne heure si on voulait suivre Félix Auger-Aliassime. Mais ceux qui l'ont fait n'ont pas été déçus, même s'il n'a pas gagné son match aux Internationaux d'Australie.
Écoute, les gens qualifient ça de match d'anthologie. Honnêtement... On dit que ça a été un combat plus de 4 heures, là, c'est pas compliqué, 4h42 minutes.
C'est long. C'est
c'est incroyable. Félix Auger-Aliassime affrontait, dans le fond, le deuxième mondial, le Daniil Medvedev, qui était le favori du tournoi, là, on va se le dire. Et il a joué vraiment, là, je pense, un de ses meilleurs matchs de tennis en carrière. Les gens ont salué son effort, ont salué ce qu'il a été capable de faire aux Internationaux d'Australie. Puis ce qu'on nous dit surtout, c'est que Félix Auger-Aliassime, présentement, là, tu sais, on a toujours eu des doutes. On s'est toujours demandé si on était capable, d'une certaine façon, de l'identifier comme un potentiel numéro un mondial. On ne sait pas, là, mais tu sais, on disait tout le temps, il semble avoir de la difficulté à être consistant, à garder, si vous voulez, la forme, à garder ses performances de la même façon. Et finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce gars-là, non seulement... il y a une amélioration dans son jeu, mais il est en train de s'échelonner ou de se frayer un chemin vers le numéro un mondial, et il y en a même qui pensent qu'il y a les toughs d'un gars qui pourrait percer le top 2, si tu veux, mondial très bientôt. Alors ça, c'est encourageant. Puis c'est sûr que dans un match comme ce qu'on a vécu aux Internationaux d'Australie contre Medvedev, ben ça fait en sorte que Félix Auger-Aliassime met la barre haute. Maintenant, c'est de répondre à cette barre-là. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il a décidé de prendre une pause. Il sera pas du côté de la France pour le prochain tournoi. Des raisons qu'il regarde, tout simplement. Mais j'espère que Félix Auger-Aliassime va reprendre sur la même note, parce que, tu sais, je l'ai dit souvent sur nos ondes, Sébastien, voir un champion ou une championne canadienne au tennis, ça arrive pas souvent. Et quand on a des petits flashs, quand on a des petits... de l'espoir, si tu veux, qui naît, ben c'est toujours le fun, puis ça rallie les gens derrière ce sport-là. On l'a vu, là, tout le monde parlait de ce match-là de Félix Auger-Aliassime, alors que quand ben ça va plus mal, c'est comme si le tennis, tout simplement, les gens s'en passaient totalement. Là, tu sais. Alors moi, je trouve ça intéressant, ça rallie le sport. J'espère que Félix Auger-Aliassime va être capable de continuer sur cette montée-là, et j'espère qu'il va être capable de se faire une place, parce que, honnêtement, il y a Denis Shapovalov au Canada qui retient l'attention, mais tu sais, Miloš Raonic, malheureusement, je pense qu'on peut mettre une croix là-dessus, là. Le plus gros de sa carrière est derrière lui. Puis chez les femmes, ben, il y a encore beaucoup de femmes à surveiller. Tu sais, Leila Annie Fernandez, qui a fait énormément de progrès au courant des dernières années. Mais encore là, il y a des femmes qu'on s'attendait peut-être à voir percer le top 5 mondial qu'on n'a pas vu encore. Alors, bref, c'est tout un tournoi, tout un exploit en soi. Félicitations à Félix Auger-Aliassime. Tout un match de tennis, puis un match qu'on va se rappeler longtemps, en espérant que ce n'est pas la dernière fois. Ça sera pas ce match-là qui va représenter sa carrière.
Ben, il y a plusieurs années, Olivier, là, j'irai pas réécouter toutes les chroniques. Là, j'ai goût de dire à un peu près, il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Si c'est pas plus, tu me disais. J'ai l'impression, Sébastien, qu'on est dans l'âge d'or du tennis canadien. Ça va bien, c'est beau, mais j'ai comme l'impression que ça se poursuit aussi. Ça n'a pas arrêté là. On n'était pas juste sur un déclin. Il y a plein de noms qui émergent puis qui font leur place dans le tennis mondial.
Exactement. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le développement se passe de la bonne façon. Par contre, il y a une différence entre se frayer un chemin. Puis je veux pas, tu sais, honnêtement, là, le top 10 mondial, c'est quelque chose en soi. C'est un exploit en soi. Puis je veux pas avoir l'air de dénigrer ça. Par contre, on dirait qu'il nous manque encore la petite coche qui va nous amener à un top 2 mondial. Mm-hmm. Tu sais, le, je sais pas comment le dire, mais le développement qui va permettre de trouver le joueur ou de, si tu veux, former un joueur d'exception ou une joueuse d'exception. Alors, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mais t'as raison. Je pense que le tennis canadien est en santé. La preuve, c'est qu'on a toujours des Canadiens qui réussissent année après année à se frayer un chemin intéressant dans des tournois internationaux puis des tournois majeurs. Alors, moi, je pense que oui, c'est vrai que le tennis va bien. Bravo, ça veut dire que notre développement va bien puis qu'il y a une croissance constante plutôt. Mais maintenant, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que éventuellement, on soit capable de dire hey, le Canada a un numéro 1 ou un numéro 1 mondial. Ce serait tout un exploit en soi. Et je pense que après avoir entendu les experts analyser un peu Félix Auger-Aliassime, ben je pense que si lui continue sa progression, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable éventuellement.
On va surveiller ça, bien sûr. Olivier Beauregard, un grand merci une fois de plus cette semaine. À jeudi prochain.
Ben oui, à jeudi prochain. Pour les amateurs de hockey, on se reprend la semaine prochaine.
Promis. Excellent. Merci.